Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 2, scène 20. Moscou était désert. Sans doute, il semblait y avoir encore un restant de vie. Mais la ville était vide et abandonnée, comme l'est une ruche dévastée qui a perdu sa reine. De loin, elle fait encore illusion. Mais de près, il n'est plus possible de s'y méprendre. Ce n'est pas ainsi quand les abeilles volent dans leur demeure. On n'y trouve plus ni le parfum, ni le bruit habituel. Le coup frappé par l'éleveur ne provoque plus le tumulte instantané et général de deux milliers de petits êtres qui se replient d'un air menaçant pour faire jaillir leur aiguillon, agitant avec colère leurs ailes et remplissant l'air de ce murmure qui accuse la vie et le travail. Quelques faibles bourdonnements, perdus dans les recoins de la ruche, se font se l'entendre. On n'aspire plus par l'ouverture, ni la senteur embaumée et pénétrante du miel, ni les tièdes effluves des richesses accumulées. Plus de sentinelles vigilantes, prêtes à donner l'éveil en sonnant de la trompe et à se sacrifier pour la défense de la communauté. Plus d'occupations paisibles et régulières, se trahissant par un susurrement continu, mais un désordre partiel, bruyants et effarés. Plus d'abeilles laborieuses, partant à vide pour butiner dans les champs et en rapporter leur doux fardeau. Seuls des frelons pillards se glissent dans la ruche et en sortent le corps enduit de miel. Au lieu des grappes noires d'abeilles chargées de miel, accrochées l'une à l'autre par les pattes et traînant en bourdonnant le résidu de la cire, l'éleveur ne voit plus maintenant, dans la partie inférieure de la ruche, que des abeilles engourdies, à moitié mortes, errant, sans savoir ce qu'elles font, de côté et d'autre sur ses minces parois. Au lieu d'une surface unie, soigneusement balayée par leurs ailes en éventail, et aux fentes proprement calfeutrées, ça et là gisent des miettes de cire, d'informes débris, de pauvres bestioles expirantes, dont les pattes frémissent encore, et des cadavres restés sans sépulture. La partie supérieure présente le même aspect de destruction. Les cellules construites avec un art si raffiné ont perdu leur virginité première. Tout est abandonné, brisé, souillé. Les frelons voleurs parcourent avec défiance les travaux abandonnés et les tristes habitants du logis, desséchés, flasques, vieillis, se traînent lentement, sans force et sans désir, n'ayant plus qu'une étincelle de vie, tandis que des mouches, des bourdons et des papillons viennent volter et se heurter contre la ruche ravagée. Parfois, on aperçoit dans un coin qui, fidèles à leurs anciennes habitudes, nettoie une cellule et s'emploie activement à la débarrasser d'une abeille morte, pendant qu'à côté, deux autres se querellent paresseusement ou s'entraident dans leur faiblesse. Ici, quelques survivantes, ayant trouvé une victime, l'entourent, se jettent sur elle et l'étouffent. Là, une abeille affaiblie s'envole lentement, légère comme un duvet, pour retomber aussitôt sur un morceau de cadavre desséché. Et au lieu des cercles noirs formés de milliers d'abeilles, tassées, pressées dos à dos, surveillant les systèmes de l'éclosion, on ne voit plus que des ouvrières épuisées et de pauvres mortes qui semblent garder encore, dans leur dernier sommeil, le sanctuaire profané et violé. C'est le royaume de la mort et de la décomposition. Le peu qui vit encore monte, grimpe, essaye de voler, se pose sur la main de l'éleveur, et n'a même plus la force de le piquer en mourant. Refermant alors la porte de la ruche, il la marque d'un signe, la brise et en retire les derniers rayons. Tel était ce jour-là l'aspect de Moscou. Ceux qui y étaient restés allaient et venaient comme d'habitude et se mouvaient machinalement, sans rien changer à la routine de leur existence, tandis que, fatigués et inquiets, Napoléon marchait de long en large devant la barrière, en attendant la députation des boyards, ce vin cérémonial qu'il regardait comme indispensable. Lorsqu'on lui annonça, avec toutes les précautions imaginables, que Moscou était vide, il jeta un regard courroucé sur celui qui avait l'audace de le lui dire, et il reprit sa promenade en silence.
« La voiture !»
dit-il. Et, y montant avec l'aide du camp de service, il entra dans le faubourg de Moscou déserté. Quel événement invraisemblable ! Et, sans pénétrer jusqu'au centre de la ville, il s'arrêta dans une auberge du faubourg de Dorogomilov. Le coup de théâtre avait raté.